بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous continuons le tafsir des premiers versets de la sourate Al-Baqarah dont on s'approche un peu, dont l'objectif est pour notre assemblée, l'objectif est de comprendre quelles sont les sifat, les qualités des pieux. Car Allah Rabbul Izzah dit que c'est un livre qui est Hudal al-Muttaqin, guidé pour les pieux. Et ensuite, notre Seigneur nous révèle les qualités des Muttaqin, des pieux. Et nous avons commencé à travailler et à cheminer vers cette compréhension en essayant d'expliquer Al-Ladina yu'minuna bil-ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Et je pense qu'on a pas mal détaillé hein, les points des Mufassirin. Nous ne faisons que relater hein, ce que les grands savants ont expliqué de leurs ouvrages, de leurs livres. Et je pense qu'on peut conclure, même s'il y avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais on peut conclure et passer au verset suivant. Alors pour conclure, justement, on avait dit que donc croire en l'invisible, c'est accepter les décisions d'Allah. Croire en l'invisible, c'est avoir une confiance totale en Allah. Croire en l'invisible, c'est accepter le décret divin, même dans les situations difficiles. C'est être capable de se dépasser, c'est être capable d'aller au-delà de ses cinq sens, de son expérience, de son vécu, de ce que nous voyons, de ce que nous jugeons comme bien, pas bien, juste, injuste, et en finalité s'en remettre à Allah Azza wa Jal, faire tout ce qu'on peut pour essayer d'améliorer la situation, d'améliorer les choses, ainsi de suite, mais en finalité, on sait que tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Et avoir cette foi en Allah et cette conviction en notre Seigneur Azza wa Jal, surtout à une époque de fitna. Je pense que nous sommes tous d'accord de cette assemblée que nous sommes dans une époque où la pratique de la religion est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. En fait, plus on s'éloigne de l'époque prophétique et de l'époque des quatre califes, ben, la pratique de la religion devient de plus en plus difficile et rester ferme de la pratique religieuse devient quelque chose de très rare. Le prophète alayhi salat wa salam nous a cité un exemple. Vous savez que les exemples, les métaphores de notre prophète alayhi salat wa salam sont toujours, mashallah, ça touche les cœurs et ça nous permet réellement de comprendre le message. C'était la pédagogie de notre prophète alayhi salat wa salam. Ainsi, il nous a donné un exemple que viendra une époque où rester ferme et accroché à sa foi sera aussi difficile que de quoi ? Quel est l'exemple ? Tenir une braise, un charbon ardent au creux de sa main. On a tous compris que c'est impossible. Ça veut dire que rester ferme dans sa religion deviendra quelque chose de très complexe. Alors c'est vrai que on se rend compte que notre pratique, notre degré de pratique de la religion, elle n'est pas toujours au top. Notre concentration dans la salat, elle est vacillante, ça vient, ça va. Et que des fois on culpabilise, on se dit que oui, on peut se dire que je pourrais peut-être mieux faire. On peut essayer de s'améliorer. Mais il ne faut pas non plus qu'on manque de considération pour les actions qu'Allah nous tawfiq de faire. Et se dire qu'alhamdulillah, on est dans une époque où les gens s'éloignent de plus en plus des pratiques religieuses hein, d'une façon générale. On est à une époque où les gens ont de moins en moins de spiritualité, toutes religions confondues. Mais que nous soyons là, ce soir, on a fait Salat al-Isha. Je dis la même chose qu'on a dit il y a 3 jours ou il y a 2 jours. Et qu'on a fait 20 raka'at. Et c'est pas des petites rakat, c'est long, mashallah. Et qu'on est prêt à écouter 15 minutes de tafsir et à se réveiller dans la nuit à 3h30, 4h et à revenir pour la salat de Fajr, ce sont quand même des efforts qui sont louables, alhamdulillah. Et remercions Allah qui nous donne la possibilité de le faire. Et le prophète alayhi salat wa salam, justement, nous a parlé de ces personnes qui vont venir après la génération des sahaba. Donc là, on a le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam, hadith d'Ibn Jubayr, radiallahu anhu, dit qu'il y avait des Ansar, qui étaient des habitants de Madina, qui étaient auprès du prophète alayhi salat wa salam, en présence. C'est très beau le hadith dit kunna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma'ana mu'ad ibn jabal 'ashir 'ashara. C'est très beau ça. Nous étions avec le prophète sallam et avec nous il y avait également Mu'ad ibn Jabal, le dixième parmi les dix. Ça veut dire quoi, c'est le dixième parmi les dix? Qui a une idée? Oui. Il y a combien de sahaba qui ont eu la bonne nouvelle du paradis? C'est-à-dire 10. Et Mu'ad était le dixième. Donc le dixième parmi ce cercle de 10 sahaba, il était avec nous. Faqulna, ya Rasulallah, hal min. Est-ce qu'il y a, on va le dire en français pour qu'on reste dans notre timing, est-ce que il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de récompenses que nous? Là, on avait des Ansar, des gens de Médine, des Sahaba. On a Mu'ad ibn Jabal, le Prophète a dit oui. Et ils ont dit, comment est-ce possible, alors que nous, on a iman en toi, au Prophète d'Allah, et on te suit, on est avec toi. Et le Prophète, alayhi salatu wa salam, a répondu, قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ مِنْكُمْ أَجْرًا. Hadith de Bukhari. Je résume, il dit des gens qui vont venir après vous. Et juste avant, parce que je n'ai pas voulu détailler trop le hadith, le sahaba a dit que nous sommes là, nous sommes avec vous. Et le prophète a attesté que vous êtes cette génération qui voyait le Coran, le Wahid descendre. Et le prophète d'Allah est parmi vous. Pourtant, il y a des gens qui ont une récompense supérieure. Et ce sont ces personnes qui vont venir après, qui vont hériter du Coran, alors qu'ils n'auront pas vu le prophète alayhi salatu wa salam, fayu'minuna bihi wa ya'maluna bima fi. Ils vont avoir iman sur ce Coran et ils vont le mettre en pratique. Eux, ils ont une récompense plus grande. Ça nous permet d'avoir plus de considération pour la chance que nous avons de mettre en pratique, de pratiquer la religion et de mettre en pratique les ordres du Coran et d'être reconnaissant envers Allah et d'avoir espoir que la récompense qu'Allah nous a promis, elle est énorme, elle est grande. Maintenant, si on ne va pas rentrer dans les commentaires du hadith, mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les sahaba, non. En commentaire, les savants disent, les muhaddithines, que le fait d'être éloigné par rapport au temps de la révélation et de mettre en pratique dans un contexte où la pratique devient difficile, tout ce qu'on a dit en introduction, pour ça il y a une grande récompense. Ça c'est quelque chose qui nous distingue des sahaba. Mais maintenant entre les sahaba et nous, bien sûr là-dessus c'est très clair, le rang est nettement supérieur. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que dans notre contexte à nous, pratiquer la religion de façon assidue, c'est quelque chose qui a énormément de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et je pense qu'il est bien aussi de le dire à nos enfants. Parce que nos jeunes, c'est quand un enfant de nos jours, je ne sais même pas. Parce qu'ils sont, la préadolescence, c'est 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans, ils sont déjà ados. Ils ont déjà les habitudes que certains avaient d'autres générations à 15, 16 ans. Mais quand même leur dire que reste ferme dans la pratique de la religion. Même si autour de toi, à l'école, les gens ils disent plein de choses, ainsi de suite, sois fier de ton identité de musulman, parce qu'il y aura une très grande récompense auprès d'Allah. Quand on est parmi des personnes qui ne croient pas ou qui méprisent les gens qui croient ou qui, d'accord, et que, mashallah, malgré ça, tu restes sincère et ferme dans ta pratique, la récompense, elle est encore plus grande. Hada. On passe au verset suivant, au ayah suivant. C'est le même ayah, mais c'est la suite. On avait lu Alladina yuminuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salah, c'est traduit, mais ce n'est qu'une traduction, et qui accomplissent la salah. Et là, Allama Sa'di rahimahullah dit que Allah Rabbul Izzah n'a pas dit que c'est des gens qui prient, mais qui accomplissent la salah. Après, vous allez dire qu'entre prier et accomplir la salah, en français, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de différence. En français, c'est pareil, prier et accomplir la salah. Mais c'est là la différence là on voit un peu la différence qu'il y a entre la profondeur des verbes en langue arabe. Yusallun, c'est quelque chose, mais yuqimuna salah, et là je vous lis le texte de Sa'di, لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْإِدْيَانِ بِصُورَتِهَا. Parce que quand on parle de prier, il n'est pas suffisant. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas uniquement d'accomplir le gestuel de la salah. Il dit que fa iqamatu s-salah, dit accomplir la salah réellement comme Allah nous l'a demandé, c'est le faire par le gestuel, la lecture, c'est-à-dire tout ce qui est zahir. Zahir, ça veut dire apparent, ce qu'on voit. Le gestuel, la lecture, la prosternation, ainsi de suite. Wa iqamatuha batinan, mais également la pratique réelle de la salah, c'est celle qui est faite intérieurement. Qu'est-ce que vous comprenez par intérieurement? C'est le lien que je développe silencieusement avec Allah Azza wa Jal. C'est cet état de concentration, de dévotion, cette présence de cœur, cet effort à me concentrer et à rester concentré et à imaginer et arriver à ce degré de concentration, on a le yakin, on est persuadé et on arrive à développer la conviction que je me tiens debout devant Allah. Même si devant moi il y a 300 personnes, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, il y a des enfants qui pleurent, il y a du bruit. Mais je dois être capable de m'imaginer. En fait, moi, j'essaie d'imaginer. Mais la réalité, c'est que chaque mu'mine qui prie se tient debout devant son Seigneur. Et Allah le voit, le regarde. Je ne dis pas le voit, Allah le regarde. Allah l'observe. Allah l'entend, l'écoute, l'entend. Et Allah sait ce qu'il y a dans son cœur. Donc, faire vivre la salah de façon apparente, externe, ça c'est très clair, nous le faisons tous. Ce sont les règles pour que la salah soit validée. Mais ce que Allama Sa'di rahimahullah explique dans son tafsir, c'est que la véritable salah qui est demandée par Allah aux croyants, c'est celle qui se passe également au niveau du cœur. Et il dit, et là c'est une conclusion qui est très belle, il dit « Fahadihi salah » هي التي قال الله فيها et vous avez complété le verset inna as-salata tanha 'an al-fahsha'i wal-munkar. Il dit, et c'est cette salat, c'est celle-là, celle qui est faite avec le corps, avec la parole, la lecture, les adhkar, tahiyyat, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la, celle-là, et qui est accompagnée des qualités internes qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça la vraie salat. Et c'est pour cette salat-là, accomplie de cette façon, qu'Allah a révélé que certes la prière, la salat, éloigne du turpitude et du blâmable, la salat éloigne des péchés. C'est que ce croyant qui arrive à développer cette concentration dans la salat, en plus de le faire correctement, le nombre de rakat, la totale, ben cette personne-là, ce croyant-là, mashallah, va atteindre un haut degré de iman qui le permettra de se débarrasser, de rester éloigné des péchés. Il s'éloignera des péchés. Il prendra des précautions pour ne pas se rapprocher des péchés. Et si jamais quelque chose d'interdit se présente devant lui, il aura grande faculté, grande facilité à repousser le mal et à ne pas céder à la tentation. Vous allez dire, oui, mais quel est le rapport entre moi, Zakaria ou Muhammad Abdullah, qui est en train de prier debout dans la masjid Quwatul Islam de Saint-Clotilde et qui fait bien la salah, comme on vient d'expliquer? Imaginez, Inch'Allah, ça arrivera qu'on arrive à développer les qualités pour faire une salah qui est parfaite. J'allais presque dire une salah comme les sahaba, mais on place là-bas un peu trop haut là, non? Mais une salah qui, mashallah, où il y a du cœur, il y a la concentration, et bref, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Quel rapport, je reprends, entre cette salah idéale, celle qui est attendue par Allah, que j'accomplis ici, et mon comportement à l'extérieur, et le fait que je sois quelqu'un de qui se distingue à l'extérieur? C'est très simple. À partir du moment où tu crées cette connexion avec Allah, ton cœur s'en imprègne. Et ton cœur aime cette relation avec Allah. Et ton cœur finira par vivre pour cela. Et quand la salah est terminée, l'effet de la salah, cette lumière qu'on a dans la salah, elle reste dans ton cœur. Ainsi, quand tu es livré au monde extérieur, où il y a la tentation, l'appel vers le mal et ainsi de suite, ben ton cœur, il continue à baigner de cette lumière. Et autant tu étais capable de te tenir debout, concentré, les yeux rivés vers le sol, mais il te sera facile de contrôler ton regard. Je pense qu'on est tous d'accord que, à notre époque, c'est une des actions les plus compliquées, qu'on appelle Rabbul Basar, le fait de contrôler son regard. C'est une action certainement qui est difficile tant pour les messieurs que pour les dames. À un tel point que le Coran a été révélé en précisant ce qui est chose très rare. Hein. En général, Allah Azza wa Jal nous interpelle par Ya ayyuhal ladina amanu. Ou vous qui avez la foi. Ya ayyuhal ladina amanu, c'est al-dhakar wal-untha. Les hommes et les dames. Mais là, pour le contrôle du regard, Allah a révélé deux versets spécifiques. Le verset au masculin et le verset au féminin. Qui nous trouve ce verset ? قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Je ne vais pas vous traduire, c'est le sens du verset, de dire aux croyants de baisser leur regard. Et puis il y a quelques lignes plus bas, وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. La même chose au féminin, chose qui est très rare. Ce qui prouve que il est peut-être, enfin, on va dire, c'est dans la nature humaine de commettre, d'aller vers ce péché. Mais il est important de se ressaisir. Donc certains vont dire oui, mais ça c'est pas possible de notre époque. Peut-être à une époque où les gens étaient dans le désert, ils se couvraient entièrement, c'était plus simple de nos jours. D'accord, c'est tout à fait différent. Mais si tu as pris l'habitude de te concentrer devant ton Seigneur et que ton cœur a appris à faire preuve d'humilité et de ressentir le regard d'Allah sur lui dans la salat, c'est quelque chose qui va rester. Parce que le croyant intelligent, il sait que même quand il sort de la salat, il reste sous le regard d'Allah. You know. Allah, c'est celui qui voit toutes ses créatures. Allah est sami'un basir. Il entend tout, il voit tout. Donc cette prise de conscience qu'on a dans la salat, elle va rester, et c'est cette salat qui a atteint ce niveau qui nous permettra de rester éloignés du haram qu'Allah Rabbul Izzah nous l'accorde. Na'am. Et puis il y a une conclusion de Ibn Kathir rahimahullah. Et cette conclusion là, elle fait un petit peu mal. Je vais vous la lire, elle dit que fala thawaba lil insani min salatihi. La récompense pour le croyant concernant la salat, elle lui sera accordée, ce croyant le méritera, à partir du moment où il a la concentration. Ibn Kathir dit que si tu as la concentration, c'est une salat qui t'apportera récompense. Ça, c'est l'avis d'Ibn Kathir. Mais ce qu'on retient à travers son avis et de tout ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'on a certainement besoin d'améliorer la qualité de nos salat. Ne pas être défaitiste, ah c'est trop dur ça, se concentrer c'est pas possible, j'ai mille et une choses qui passent par la tête. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, vous pensez pas qu'il faut qu'on essaie de monter un peu le niveau? On a une pratique de façon un peu, une routine un peu de notre salat, mais peut-être qu'à un moment donné on doit se dire que ben, j'aimerais atteindre un véritable niveau de iman, un niveau de foi qui est plus élevé, qu'effectivement quand je sors de la masjid je reste ferme dans ma foi, après les savants donnent plus de détails, hein, j'arrive à contrôler mon regard comme dans la salat, j'arrive à ne pas écouter des choses qui sont pas bien, et si j'entends j'essaie de m'en détourner, tout comme dans la salat je ne dis pas n'importe quoi, je reste limité aux paroles, aux adhkar, à la lecture du Coran. Dans la vie de tous les jours, ben, je vais contrôler ma langue. Dans la salat, on ne pense pas à mille et une choses, on pense à Allah. Mais dans la vie de tous les jours, j'arriverai à garder cette pensée d'Allah. Vous voyez comment on peut interposer le comportement du mu'min dans la salat dans sa vraie vie. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a besoin de monter un peu en niveau et faisons doua. Ça doit faire partie de le doua. Qu'Allah nous donne la possibilité de rester concentré dans la salat. Faisons ce doua tout le temps. Plutôt que de dire que c'est trop dur. Ben, après, vous savez, dire c'est trop dur, même pour les choses de la vie, hein, les études ou passer un concours, si à chaque fois on dit c'est trop dur, c'est pas pour moi. Mais quand est-ce qu'on monte un peu de niveau? Donc là, on parle de spiritualité, là, on parle de cœur qui se soumet à Allah, c'est pas quelque chose qu'on pourra faire. Moi, je peux demander à mon corps de se soumettre à Allah. Je reste debout, les 20 rakats, je bouge pas, je ne sors pas, ok. Mais le cœur, c'est quelque chose qui m'échappe, ça. Ben, demandons au créateur de ce cœur de nous accorder la conscience. Concentration et la dévotion, et inshallah, on est sincère, Allah nous l'accordera. Ce qu'on retient également, et là on va conclure, c'est que dans toute bonne action de la religion, il faut la présence de cœur. La religion n'est pas quelque chose, n'est pas les actions de la religion, c'est pas une routine, c'est pas quelque chose qu'on accomplit sans réfléchir comme une habitude. Voilà, ben j'ai l'habitude de prier, je me pose même plus de questions devant qui je me prosterne, qui est mon créateur, pourquoi je fais ce gestuel. Il y a des fois où c'est bon, on vient, on fait la salat et on s'en va et on n'a pas trop compris qu'est-ce qu'on a fait. Mais non, on a besoin de présence de cœur. Et je fais un parallèle avec un autre hadith en rapport avec une autre action. Hein. Qui parle des douas, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit, hadith de Tirmidhi, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah, faites doua, mais quand vous faites doua, soyez convaincus qu'Allah va accepter. C'est-à-dire que le doua, c'est pas juste lever les mains et dire des choses, ce qui est bien aussi, mais en plus du gestuel et de la parole, il faut que le cœur soit convaincu qu'Allah accepte. Et il dit wa'lamu, enfin ça me dit wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'in min qalbin ghafilin lahin. Et sachez qu'Allah, c'est un hadith qui nous remet un petit peu en question, Allah n'accepte pas les invocations qui viennent d'une personne dont le cœur est distrait. La personne est dans le rafla. Rafla, c'est l'insouciance. C'est-à-dire que tu fais doua, tu demandes des choses, mais ton esprit est ailleurs. Ou alors tu demandes, tu fais, tu formules. C'est comme une routine. Tu as tout le temps, tu dis, Allah, accorde-moi la santé. Allah, accorde-moi la protection. Ya Allah, accorde-moi de bons enfants, que mes enfants aient le droit chemin. C'est les mêmes doigts que je dis tout le temps. Mais c'est des doigts importants, ça. C'est des doigts importants. Mais si tu le dis, mais sans vraiment y penser, le doigt n'est pas accepté. Ça, c'est à la lumière de ce hadith. Donc, comprenons que dans la religion, dans toute action, il y a l'apparence extérieure, les maslahs, les obligations, les shurud, les wajibat, les sunnan. Mais avec ça, il y a également, il y a surtout les conditions qu'on doit réunir pour que l'action soit acceptée et validée par Allah. C'est tout ce qui est en rapport avec la concentration et la dévotion qu'Allah Rabbul Izzah nous l'accorde et nous permet de réunir les qualités spirituelles pour que notre salat soit acceptée par lui, Azza wa Jal, et que cette salat nous apporte la lumière et que cette salat nous éloigne complètement des harams. Qu'Allah Azza wa Jal accepte cette assemblée et nous donne tawfiq de mettre en application. Et demain, on verra les derniers passages. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. جزاكم الله خيرا.